Que Dieu soit béni. Voilà, on va, sans plus tarder, passer à la parole de Dieu. Et vous rappelez, la dernière fois aussi, sous forme d'humour, j'avais dit qu'on avait la force des buffles et que finalement, presque... voilà, je vous avais traité de buffle, c'était pas là mon intention, mais la Bible nous dit qu'on a la force comme le buffle. Et dans la Bible, il y a des animaux qui nous enseignent au niveau des caractéristiques de certains animaux, et la Bible ne laisse rien au hasard. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui a été donné dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il y a une signification derrière avec toutes les caractéristiques que cela comporte. Les animaux dans la Bible nous enseignent dans notre marche. Regardez, par exemple, Jésus a pu dire « Regardez les oiseaux du ciel hein ». Tout ça pour nous dire que, finalement, à chaque jour suffit sa peine et qu'on doit faire confiance à notre Seigneur qui prend soin lui-même de chacun d'entre nous. Et ici, il met en parallèle, hein, il dit « Voilà, il prend soin des moineaux, il prend soin des oiseaux. À combien plus forte raison il prendra soin de chacun d'entre nous ?» C'est une parole qui nous encourage, ça, hein. Donc, une parole qui nous fait du bien. Alors, l'animal qu'on va voir aujourd'hui, hein, alors c'est un lion. Non, un aigle, hein, évidemment. J'ai vu vos visages. Alors, de temps en temps, c'est des petits rappels hein, pour voilà, hein, pour pas que je vous endorme. Ça, c'est le drame pour chaque prédicateur. Hein. C'est quand on voit certains, on commence à les perdre. Hein, la nuit a été difficile. Donc, c'est de vous garder éveillé, mais je sais que vous allez l'être. Alléluia. Donc l'animal d'aujourd'hui, c'est l'aigle, le roi des oiseaux, qui va symboliser l'aigle, la capacité, la force, la puissance, la stabilité, l'endurance et la persévérance. On va le voir ensemble. Sûrement que vous avez déjà entendu prêcher sur l'aigle, évidemment. Mais voilà, peut-être un rappel, peut-être une découverte pour les nouveaux. Mais en tout cas, on va voir ensemble ce que la Bible nous enseigne au sujet de l'aigle. On lit un passage que nous connaissons bien, deux versets dans Ésaïe chapitre 40, le verset 30. Ésaïe 40 et verset 30. Nous lisons ceci, « Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. » Alors, il y a un parallèle, encore une fois, qui est donné ici au verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. » Alléluia, amen. On voit ici, et donc il y a une comparaison avec de prendre le vol comme les aigles. Alors, quand on voit certaines caractéristiques donc, de l'aigle, la première de choses, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il a une vision où il peut voir à 360 degrés. C'est quand même extraordinaire. Hein, 360 degrés et dans une distance de 8 kilomètres. J'ai regardé sur une carte, vous savez, avec un fameux rond, j'ai mis 8 kilomètres d'ici, donc de l'église. Ça fait jusqu'à Blagnac. Il peut voir jusqu'à Blagnac. C'est extraordinaire. Vous voyez, au niveau de la vision, l'aigle vole très haut. Et pour nous, c'est le symbole qu'il y a des moments dans nos vies où on doit pouvoir s'élever, pouvoir aller plus loin, avoir cette vision finalement de qui nous sommes. Tout à l'heure sera apporté donc un partage, les sœurs, les dames, tout à l'heure avec notre identité en Christ. Et ce qui va faire qu'on va tenir ferme dans la grâce du Seigneur, c'est savoir qui nous sommes, de ne pas nous laisser déstabiliser par quoi que ce soit, mais d'être ferme dans nos convictions. Alléluia. Voici donc les choses de là-haut. Nous voulons voir, nous focaliser sur les choses d'en haut. Pas celle ici-bas sur terre, parce que quand on se trompe d'endroit où on doit regarder, à ce moment-là, on peut être déstabilisé. Hier, on le partageait avec les ados, hein, que tant que Pierre, il regardait au Seigneur Jésus, et il marchait sur l'eau. Quand il a commencé à regarder aux éléments, il a commencé à enfoncer. Ça va toujours commencer par un regard. Et nous, nous voulons regarder aux choses de là-haut, où nous sommes assis avec Christ, dans les lieux célestes, c'est le DPS numéro 9 qui nous dit ceci, assis avec Christ, dans les lieux célestes, regardons en bas, l'ennemi vaincu. Alléluia. Et Paul va prier pour que nous ayons la révélation de cette position et également l'héritage qui en découle. Est-ce que vous savez que vous venez d'hériter ? Le jour où vous avez donné votre vie au Seigneur, vous avez reçu un héritage. Un héritage dans le ciel, on a les arts déjà ici-bas, mais dans le ciel, ça va être extraordinaire. Alors, comment ça sera ? On le verra quand on sera là-haut. La Bible nous dit, elle nous donne quelques renseignements, mais ça sera tellement merveilleux et extraordinaire. Alléluia. Il y a ces versets dans Colossiens, verset 1. Colossiens 3, verset 1, qui nous dit, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, la vision, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Alléluia. Amen. Vous savez, l'épître de Paul aux Colossiens, les premiers chapitres, donc il est en train de poser le fondement de la christologie. En théologie, là, il pose le fondement pour savoir qui est réellement Jésus-Christ. Et il dit, mais si donc vous êtes ressuscité, ici c'est conditionnel, on l'a dit dimanche dernier, le Seigneur sait tous ceux et celles qui sont dans ce lieu qui sont sauvés, et ceux qui ne le sont pas. Et il y a une condition pour cela. La condition, c'est de reconnaître que nous sommes dans un état, nous sommes nés d'un état pécheur et qu'on a besoin d'un sauveur. Et comme nous sommes bien incapables de nous sauver, le Seigneur a pourvu, donc en donnant le substitut de Dieu qui est Jésus-Christ, tout a toujours rapport évidemment avec le Seigneur. Donc si donc vous êtes ressuscité avec Christ, il doit y avoir une évidence, on doit rechercher les choses d'en haut. Alléluia, où Christ est assis à la droite de Dieu. Vous êtes ressuscité avec Christ, ça c'est la bonne nouvelle ce matin. On a été ressuscité déjà par notre nature, on l'a vu, que quand on a donné notre vie au Seigneur, notre nature elle a changé, notre ambition a changé, la perspective de vivre notre vie ici-bas a changé, nous avons été donc ressuscités avec Christ, c'est-à-dire ramenés à la vie. Ça, c'est extraordinaire. Nous étions morts dans nos péchés et dans nos offenses. Mais Christ est venu nous ramener à la vie. Autrefois, nous étions ténèbres. Aujourd'hui, nous sommes lumière. Alors ça, c'est encore une fois, c'est extraordinaire. Que savoir que nous sommes la lumière. Et la lumière, elle est faite pour pouvoir diffuser la lumière de Christ qu'il a mis en nous. Alléluia. Maintenant, lumière. Et c'est pour ça qu'on loue le Seigneur. Ce matin, on a loué le Seigneur parce que nous avons compris, nous nous sommes souvenus, nous nous sommes rappelés que nous étions ténèbres et que lui est venu nous éclairer de son admirable lumière. Et désormais, nous voyons clair. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi ? Eh oui, nous voyons clair. Nous voyons que le Seigneur nous a présenté le plan de salut et nous l'avons compris et accepté. Et pour cela, donc, si on est ressuscité avec Christ, il y a une évidence qui doit être là. C'est de rechercher les choses d'en haut. La motivation, la seule motivation, c'est de rechercher les choses d'en haut. C'est rechercher Christ, c'est rechercher sa compagnie, c'est se focaliser sur lui. C'est également crucifier sa chair. C'est ça, rechercher donc les choses d'en haut. Et là où il y a une complication, c'est quand on se focalise en premier lieu sur les choses d'ici-bas qui vont passer et qu'on inverse finalement le sens des valeurs. Là, il y a un gros souci. Mais quand on est réaliste face au salut qui nous a été accordé, alors on réalise et on cherche les choses d'en haut. Alléluia. Cherchez la présence de notre Seigneur. Et le Seigneur, il nous invite à venir régulièrement dans sa présence. Verset 2, il est dit, affectionnez-vous. Regardez, le mot, il est fort. Affectionnez-vous. Une affection particulière, une tendresse, quelque chose qui est là, qui bouleverse nos cœurs. Recherchez les choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Il y a ce contraste, dualiste dans nos cœurs où finalement Et c'est l'apôtre Paul qui va le dire dans le livre des Romains. Il va dire, mais d'un côté, voilà, je veux faire le bien, puis je fais le mal. D'autre côté, le mal qui est là, enfin, vous connaissez ces versets-là, il va pousser un cri et il va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il se ressaisit en donnant la gloire à notre Seigneur de ce qu'il a été délivré. On sait qu'il y a voilà, un combat qui est dans notre cœur entre le bien et le mal. Et donc, nous voulons regarder, nous, aux choses d'en haut. Et quand on regarde aux choses d'en haut, on est en train d'alimenter la vie spirituelle en lui donnant la force nécessaire afin que quand l'adversité va venir, quand le combat va être là, on va tenir ferme, on va tenir bon parce que nous serons en bonne santé et en bonne forme spirituelle. Et le Seigneur nous veut en forme. Donc pour cela, regardez, s'affectionner aux choses d'en haut. Et puis il est en train de rappeler, car vous êtes morts. C'est une métaphore fondée sur le baptême. Vous vous rappelez, hein, le baptême, c'est ce symbole, passe de la mort à la vie, pour décrire la nouvelle position des croyants. Et c'est pour ça que finalement, dans notre cœur, il y a cette louange qui monte vers le Seigneur, qui est spontanée, en disant, Seigneur, c'est quand même extraordinaire de savoir que désormais, je suis ton enfant. Je suis accepté de Dieu. Alléluia. Tout ça parce que Jésus a payé à la croix du calvaire. L'exhortation pour nous de ces trois versets, c'est que comme l'aigle, il regarde vers le haut avec cette fameuse vision, chacun d'entre nous, nous devons nous élever comme l'aigle et pour certaines situations, changer notre vision. Parce que des fois, on a une vision qui n'est pas bonne. Il faut de la correction. Plusieurs maladies au niveau des yeux. Mais en tout cas, regarder vers le Seigneur, la vision 360 permet de prendre conscience de notre force. Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes les enfants de Dieu qu'il s'est acquis à un très grand prix. Et nous pouvons marcher avec fierté, pas avec orgueil. Mais avec fierté, en disant, mais je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, il y a un petit cœur qui le dit. Hein. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Savoir où est ma position. Donc, mais pour cela, on doit pouvoir laisser le Saint-Esprit nous transformer pour entrer dans la vision de Dieu. On a vu ici que l'aigle, concernant sa vision, puis il y a également sa durée de vie, sa longévité. L'aigle vit entre 60 et 80 ans. Et ceux qui le gardent en forme, c'est pas mal hein, pour un animal, quand même assez conséquent. Tout cela, c'est parce qu'en fait, il ne mange pas d'animaux morts. En fait, il ne se laisse pas infecter par toutes les charognes qu'il peut y avoir. Et là, ça m'a fait rappeler à un verset du livre de l'Ecclésiaste, chapitre 10, verset 1er. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Vous voyez, il ne faut pas beaucoup hein, pour que quelqu'un soit emporté loin du Seigneur, un peu de folie. Donc les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Ces petites choses qui sont là dans nos vies peuvent avoir des grandes ou de graves conséquences en cette vie et pour celle à venir. Donc, on l'entend aujourd'hui régulièrement, mais ce n'est pas grave. Où tout le monde le fait. C'est pas parce que tout le monde le fait que c'est bien. Ne pas se focaliser et ne pas se laisser infecter par certaines choses. Ici, il est parlé de mouches mortes. Qu'est-ce que les mouches mortes? Les mouches mortes, ce sont les disputes. Les mouches mortes, les suspicions, les jalousies, les médisances qui affectent la communion fraternelle. ces choses, on dit, quand quelqu'un est en place, en responsabilité, on dit, moi, je n'aurais pas fait comme lui. Moi, j'aurais fait différemment. Au lieu de dire, bon, peut-être j'aurais fait différemment, mais Seigneur, bénis, Seigneur, je veux soutenir, être là pour finalement se supporter, dans le sens de supporter, d'encourager les uns et les autres. Alléluia. Donc, les mouches mortes, c'est tout ce qui a trait à ces petites choses qui mettent quand même une certaine interférence et même zizanie dans notre relation les uns envers les autres. Pour cela, on l'a vu tout à l'heure, c'est regarder aux choses d'en haut. Regardez ce qu'il est dit également dans Hébreux chapitre 12, verset 15. Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Comme quoi on peut se priver, on le voit ici, certains. À ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. On doit veiller à cela, à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et qu'aucune racine d'amertume. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans les champs où il y a les gros tracteurs qui passent, donc avec cette grosse machine derrière pour aller en profondeur, enlever la plus petite racine. Pourquoi ? Parce que si cette petite racine, on la laisse, tôt ou tard, elle va ressortir. Quelque chose qui est tout à fait logique. Et là, c'est ce que veut dire ce verset. C'est qu'aucune racine, même la plus petite, d'amertume, poussant des rejetons, à un moment donné, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Ici, nous devons veiller à cela plus que jamais. Il y a ce chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 13, on le qualifie de l'amour parfait. Il est dit que l'amour, il ne soupçonne pas le mal. L'amour, pour ne pas soupçonner le mal, il faut que je voie toujours le côté positif de la chose. Ça nous est tous arrivé à un moment donné de se faire nous-mêmes une opinion sur une certaine situation d'un frère, d'une sœur. On ne connaît pas les tenants, les aboutissants. Et puis quand on se dit, mais voilà, c'est parce que ceci, cela, voilà, toutes choses, elles sont déjà presque établies. Et puis quand on s'aperçoit que finalement, ce n'était pas tout à fait le cas. Il y avait des éléments qui nous avaient échappé, qu'on ne savait pas. Et puis ce n'était pas tout à fait toute l'histoire. Que le Seigneur nous aide à ce qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans nos relations. Et la Bible, elle est claire par rapport à cela. Et il peut y avoir, on reste humain, quelques racines, certaines choses, on doit les déposer au pied de la croix, alléluia, et ensuite aller voir la personne intéressée, parce que ça c'est souvent la seconde partie qu'on oublie, et de verbaliser, sans s'étendre, en disant, voilà, je te demande pardon, ça coûte. Pourquoi ? Ça vient toucher notre ego. C'est pas agréable. Combien de fois, moi-même, je vous l'avais dit un certain dimanche, donc je disais certaines choses, je dénonçais certaines choses dans l'église où j'étais. Donc je commençais là avec le Seigneur. Le fond était bon, la forme pas du tout. Et donc à un moment donné, il y avait certaines choses dans mon cœur et puis, en général, l'être humain est comme ça. On cataloguait les personnes et on les mettait dans des cases. Lui, c'est un chrétien, premier niveau. Second niveau, alors lui, c'est un TTS, très, très spirituel. On mettait les gens dans les cases. Que le Seigneur fasse qu'il n'y ait pas de racines, d'amertume, que nous soyons dans cette transparence et que nous puissions crucifier, comme a pu le dire l'apôtre Paul, cette chair qui veut absolument nous tirer vers le bas. On l'a remarqué plusieurs fois. Quand le Seigneur ou le Saint-Esprit nous pousse à aller demander pardon, il y a une libération qui se passe. Le pardon libère. Des fois, on pense que c'est neutre. C'est-à-dire, bon, chacun fait son chemin, et puis qui vivra verra. Mais en fait, c'est pas ça. C'est quand il y a du non-pardon au fond de notre cœur, nous ne pouvons pas progresser. Et le Saint-Esprit nous ramènera toujours, toujours dans cette position où on doit verbaliser, dire « voilà », sans s'étendre. La Bible ne nous demande pas de nous étendre sur la situation. Mais voilà, je te demande, je n'ai pas été à la hauteur, je te demande pardon, mon frère et ma sœur. Et à partir de ce moment-là, la relation est rétablie et le Seigneur, du haut du ciel, accorde son pardon. Des fois, on dit qu'on a pardonné, mais dans notre cœur, il n'y a rien qui s'est passé. Parce que ça n'a pas été verbalisé et de tout notre cœur. Alors qu'il n'y ait aucune racine d'amertume dans cette Église. Parce qu'il en va de votre salut. Il en va de notre salut. Et pour cela, nous devons faire passer cette grosse charrue qui va en profondeur du Saint-Esprit en disant « Sonde-moi, ô Dieu, et regarde-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. » Parce que des fois, on peut être sincère dans notre démarche. Mais je pense, et vous serez d'accord avec moi, qu'on doit laisser l'opportunité au Seigneur de venir sonder dans nos cœurs. Personnellement, à chaque fois que je l'ai fait, je pensais être à un certain niveau, hein, à un moment donné, puis le Saint-Esprit dit, il y a encore ça dans ta vie. Règle-le. Mets des choses. Recherche. Prie. Tiens-toi sur tes genoux. Puis, petit à petit, quand il y a ce désir de plaire au Seigneur, ben, ces choses-là, elles disparaissent. Amen. On a vu donc ici sa durée de vie. Et la raison de sa durée de vie, c'est qu'il ne se laisse pas infecter. Et puis, à un moment donné, quand il est là et qu'il voit sa proie, il y a sa concentration. L'aigle est focalisé sur son objectif. Je ne sais pas quel est votre objectif. En tout cas, ce qu'il devrait être pour chaque croyant, c'est que nous puissions, par nos vies, honorer le grand Dieu de l'univers. Que ma vie plaise à Dieu, c'est l'honorer. Nous ne devons pas nous laisser distraire ou décourager. Alors, c'est vrai qu'il y a des fois, donc dans sa concentration, l'aigle peut parfois rater sa cible. Mais il recommence avec beaucoup de patience. Que Dieu fasse qu'il puisse nous donner cette patience, encore et toujours, de pouvoir se relever là où on a chuté, et de se dire, mais j'y arriverai avec la grâce du Seigneur. Je compte sur sa force et il sera avec moi. Alléluia. Alors il faut beaucoup de patience. Il peut parfois attendre des heures pour atteindre son objectif. Que Dieu fasse aussi que nous puissions exprimer ce quartier du fruit de l'esprit qui est la patience. Je ne sais pas vous, moi je suis impatient de nature, de base en fait. Mais avec le Seigneur, le Seigneur travaille notre cœur afin de nous montrer certaines situations. Il nous faut de la patience, une certaine compréhension, confiance au Seigneur. Combien de fois, en tant que pasteur, je disais dans nos discussions avec Henriette, je lui disais, voilà, je vais voir le frère, la sœur, on va rectifier la situation. Henriette qui me disait, Alex, calme-toi, reste tranquille. Prie le Seigneur, laisse faire le Seigneur, voilà, prions, cherchons la face du Seigneur, et puis le Seigneur fera le reste. Je vous promets que c'est comme ça que ça fonctionne. Cette patience, que le Seigneur nous donne, cette patience, alors pas une patience donc laxiste, mais voilà, la patience du Seigneur pour attendre. On voit ici qu'il y a cette concentration pour l'aigle, qui est focalisé sur l'objectif. Est-ce que vous savez que le Seigneur, quand il a quitté cette terre, il nous a laissé des objectifs? Son dernier commandement, sa première priorité. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. On l'a vu, je crois que c'est mardi. Prêcher, c'est quoi? C'est annoncer. Et annoncer, c'est même pas le fait de pouvoir se tenir sur un pupitre. Annoncer, c'est rayonner partout où je vais. Laissez la bonne odeur de Christ. Mais pour laisser la bonne odeur de Christ, ben, il faut qu'au préalable, ben, bon, je l'image comme ça, je prenne le parfum de Christ. Le matin, quand on se salue, c'est agréable. Certains, donc on se fait le baiser fraternel. Puis quand il y a ces bonnes odeurs qui montent, c'est vraiment agréable. Bon, le reste aussi, le contraire aussi. Le contraire aussi, mais pas ici, pas ici. En tout cas, voilà, l'aigle reste focalisé sur son objectif. Que le Seigneur fasse que chacun d'entre nous, nous puissions pas nous laisser distraire, mais qu'au contraire, nous puissions toujours continuer à dire, Seigneur, en toute humilité, sers-toi de moi. Seigneur, pour que quelqu'un qui ne te connaît pas, je puisse faire le lien, lui montrer la direction. Nous sommes de simples panneaux indicateurs, hein, en disant que le salut, il est là. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et surtout, nous ne sommes pas déstabilisés par qui que ce soit, qui veulent, certaines personnes, hein, donc, veulent nous montrer un évangile à bon marché. Il n'est pas à bon marché, je vous promets. Hein. Il est gratuit pour nous. Mais pour Dieu, ça lui a coûté. Hein. Ça lui a coûté le prix de son Fils unique. Donc le prix, il a de la valeur. Alors, que nous puissions nous-mêmes nous focaliser dans cette direction. Et ce verset d'Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Et là, c'est un secret pour nous. Quelque chose que le Seigneur a voulu nous faire découvrir afin que nous puissions continuellement chercher le Seigneur, chercher sa présence. Je le répète régulièrement, quand vous traversez des moments difficiles, au lieu de vous isoler, cherchez l'Éternel, cherchez la présence du Seigneur. Alors, on a de la difficulté par rapport à ça parce que nous, on marche avec l'envie. Ou alors, quand on a été blessé, la dernière chose qu'on ait envie justement de faire, c'est d'aller dans la présence de Dieu. On est tous pareils. Et pourtant, c'est la première des choses à faire. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta grâce. Cherchez l'Éternel. L'aigle, ce qu'il fait également, c'est qu'à un moment donné, il va monter en altitude, il va monter très haut, et quand la tempête, il y a une tempête qui est là, il va monter au-dessus de la tempête. En fait, il va exploiter la tempête. Quelle belle image pour chacun d'entre nous. Où les épreuves, les difficultés, la tempête s'abat sur une vie et c'est terrible. Et comme l'aigle, nous voulons nous élever au-dessus de la tempête. L'aigle cherche le noyau de ce courant aérien qui est là. Et une fois que le noyau de ce courant aérien est trouvé, il déploie ses ailes, ce qui lui permet de s'élever encore plus haut, voire au-dessus du courant de la tempête. Je lève les yeux en direction des montagnes. C'est de là que me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Oui, chaque chrétien doit apprendre à transformer les obstacles et les défis en opportunités. Je vous promets que tous ceux et celles qui passent par des moments difficiles et les plus expérimentés au milieu de nous seront d'accord avec moi pour dire que c'est rarement nos progrès, on progresse rarement quand tout va bien, quand on est sur un transat avec les lunettes de soleil et un cocktail sans alcool près de nous. C'est quand on est dans la fournaise. Quand on est dans la difficulté, il y a, à un moment donné, une recherche qui va venir, qui doit venir de notre cœur en disant, Seigneur, c'est difficile, c'est compliqué, mais je veux regarder dans ta direction. Et quand on le fait, il y a quelque chose qu'on ne savait pas par rapport à Dieu, une relation toute particulière, une révélation fraîche de qui et Dieu. Et à partir de ce moment-là, on peut dire, oui, c'est vrai, j'étais dans les difficultés, j'étais dans les problèmes, mais à travers ce problème et cette difficulté, j'ai expérimenté une facette de Dieu que je ne connaissais pas. Souvent, il arrive, et c'est arrivé, hein, le fils de la bien-aimée, qui est parti rejoindre le Seigneur, hein, donc cette semaine, il est venu me voir pour me dire « Je suis en colère contre Dieu. » Alors dans des moments comme ça, c'est un peu délicat. On était deux pasteurs et puis on essayait de lui faire comprendre que Dieu est souverain. Et c'est vrai que c'est difficile. Il a vu sa maman les derniers temps dans la souffrance. Et ça déchire nos cœurs. Hein. On était dans la compréhension évidemment, mais surtout ne pas avoir cette réaction de lever le poing contre Dieu. Dire, certes, je passe par l'épreuve, mais Seigneur, tu veux peut-être me montrer quelque chose au travers de cette épreuve. Le Seigneur n'a jamais dit que ça allait être facile. D'ailleurs, il nous aime tellement qu'il nous a avertis, il nous a dit, vous aurez des tribulations, ça va être compliqué pour vous. Mais prenez courage, c'est ça l'exhortation. Prenez courage. Et quand on s'approche du Seigneur, avec un autre regard, alors, oui, on reprend courage. Oui, on peut dire aux jeunes qui commencent dans la foi, on bénit Dieu pour les épreuves de la vie. On le bénit une fois qu'on est sorti de l'épreuve. Parce que dans l'épreuve, c'est rare qu'on dise « Merci, wow, c'est super, encore une autre Seigneur. » C'est après, parce qu'on a appris quelque chose. Et peut-être que c'est une parole pour quelqu'un ce matin. Tu passes par des moments difficiles, quelque chose, tu te débats. Quelque chose que le Seigneur veut t'apprendre, encore et toujours. Le drame, ça serait qu'à un moment donné, on se dise, mais moi, je sais tout, c'est bon, j'ai plus besoin de conseils. Alors ça serait terrible, mais au milieu de nous, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse réfléchir comme ça. Alors que le Seigneur nous aide à trouver ces courants qui s'élèvent au-dessus de la tempête. Le chrétien doit apprendre donc à transformer les obstacles et les défis en opportunité. Juste pour compléter ce que je suis en train de vous dire, Jacques chapitre 1, versets 2 à 4, ces versets on les connaît, tout début je ne les comprenais pas trop au début de ma conversion. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alors du coup, est-ce que épreuve et joie dans la même phrase sont compatibles ? Mais apparemment, oui. Nous, non. On pourrait dire, mais nous, c'est pas possible. Mais il y a quelque chose à découvrir. Sachant que l'épreuve de votre foi, elle va produire quoi ? On était d'accord tout à l'heure pour la patience. Alors le Seigneur va utiliser donc les épreuves pour que cela produise de la patience. Verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et c'est l'objectif pour chacun d'entre nous, la perfection. Alors souvent, comme excuse, on va dégainer, « Ah, mais je ne suis pas parfait !» On est au courant, merci. C'est vrai, hein, c'est la réalité. Il ne faut pas que ce soit une excuse pour vivre dans la médiocrité. Il faut qu'on puisse tendre vers cette perfection et que le Seigneur nous aide à tendre, à vouloir, Seigneur, te ressembler. Je me souviens encore de la prédication de Jérôme la dernière fois. Te ressembler, Seigneur. C'est vraiment mon désir. C'est ce que je désire le plus. Alors, évidemment que la barre est haute. Mais le Seigneur nous a dit que ça serait possible avec lui, en se réfugiant en lui, que le Seigneur nous aide. L'aigle, il est également fidèle. La fidélité aujourd'hui, regardez Proverbes verset 20. Chapitre 20, pardon, verset 6. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera ? Alors déjà, à l'époque où ça a été écrit, on cherchait les hommes fidèles. Et d'après les statistiques, la norme aujourd'hui n'est plus la famille classique, mais plutôt une famille monoparentale et également recomposée. Mais le plan de Dieu, ce sont des familles fortes, unies, et le plan du diable, c'est leur destruction. Pur et simple, c'est ça égorger, c'est ça détruire. Et aujourd'hui, plus que jamais, et même dans les foyers chrétiens, où à un moment donné, on a ouvert la porte, on a laissé une faille, et il peut y avoir une destruction terrible. Un couple qui servait le Seigneur, à un moment donné, ils vont se retrouver quelques années plus tard, en pleine séparation. Alors évidemment, on ne juge personne, hein, que Dieu nous garde, au contraire, on prie pour vous. Mais en fait, ce sont des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, que Dieu n'a vraiment pas voulu, et que nous puissions nous-mêmes donner à cette société l'exemple et le témoignage de familles fortes, solides, et qui montrent à ce monde, oui, que c'est possible d'être dans la fidélité. Que Dieu nous aide vraiment à être fidèles. Quand on est fidèle, fidèle à Dieu, fidèle dans notre relation au Seigneur, alors on sera fidèle à l'Église. On sera fidèle les uns aux autres. Que le Seigneur vraiment touche nos cœurs et nous utilise puissamment. Amen. Oui, l'aigle est fidèle. L'aigle, on l'a vu avec ce verset d'introduction, il rajeunit. Il rajeunit sans cesse. Le secret de l'aigle, de ce rajeunissement, à un moment donné, dans sa vie, la corne de son bec devient si épaisse et tellement recourbée qu'il ne peut plus se nourrir. Ses griffes sont tellement dures qu'il est incapable d'attraper sa proie. Ses ailes magnifiques pèsent si lourd qu'il ne peut plus voler avec aisance dans sa performance habituelle. Alors il y a un choix crucial qui s'impose à sa vie. Soit il meurt rapidement de faim, soit il s'isole encore une fois très haut dans la montagne pour une cure de rajeunissement. Ça peut paraître, dire, ah bon, une cure de rajeunissement, j'en ai besoin. Vous savez ce qu'il fait? Il frappe d'abord la corne de son bec contre la paroi rocheuse, jusqu'à ce que le bec se casse. Il y a une douleur qu'il a. Avec son bec, et puis quand le bec est cassé, jusqu'au moment où son bec cassera, afin qu'un autre puisse repousser, c'est le miracle. C'est pour ça que la Bible emploie l'exemple, nous donne des exemples d'animaux. Il y a un autre bec qui va repousser. Avec son bec neuf, il va arracher ses griffes, les vieilles griffes, les unes après les autres, pour en laisser pousser d'autres. Il arrachera son plumage avec ses serres toutes neuves. Et quand le processus naturel aura lieu, alors il y a une huile coulera de ses blessures et un plumage tout neuf pourra pousser. Voilà la caractéristique de l'aigle. Quelle belle image pour chacun d'entre nous. Quand on traverse des moments difficiles, on a besoin pour retrouver ce rajeunissement, ce nouvel élan dans notre marche quotidienne, de casser ce bec. Ce n'est pas les circonstances, c'est nous-mêmes pouvoir s'isoler afin qu'il y ait encore des choses qui puissent disparaître, afin que nous soyons renouvelés, un plumage nouveau. Et moi, je bénis Dieu parce que dans les églises, il y en a qui ont compris ce principe-là. Et ils sont toujours pleins de vigueur, pleins de force. Et ça, c'est vraiment des personnes qui sont précieuses. Que le Seigneur nous aide à découvrir cela. Cette opération, elle démontre le verset biblique qui dit, psaume 103, verset 5, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » C'est ce qu'on a vu ensemble. Que le Seigneur fasse que nous puissions trouver un rajeunissement afin de retrouver vraiment quelque chose de nouveau, une marche, une soif, en disant, ben, je suis là, je veux poursuivre la tâche, alléluia. Et finalement, je termine par là, la conclusion. On voit cette image de cet aigle. C'est un appel à venir auprès du Seigneur. Un appel à se ressourcer. Un appel à rajeunir. Un appel également à restaurer ce qui a été brisé. Je crois que le Saint-Esprit est là ce matin parmi nous afin de déposer ses paroles dans les cœurs, afin que nous puissions trouver ce rajeunissement et trouver une vie qui finalement vaut la peine d'être vécue avec le Seigneur, une vie remplie de joie, de bonheur. Il semblerait qu'il y ait des personnes, rien ne peut les atteindre. C'est parce qu'en fait, ils ont compris ce principe-là. Ce n'est pas qu'ils sont préservés de certaines difficultés ou de certaines épreuves. Ils vivent les mêmes, sauf qu'ils ont compris que régulièrement, il faut aller près du Seigneur afin d'être constamment renouvelé. Merci Seigneur pour la bénédiction d'hier. Ne l'oublions jamais pour le louer. Mais Seigneur, je veux poursuivre. Il y a un chant qui dit dans le J'aime, Jésus, encore plus de toi, encore plus de ton onction, encore plus de ta révélation. Que nous ne puissions pas nous dire, je suis arrivé là, c'est suffisant. Que nous ayons ce cœur de conquérant comme on l'a vu dimanche dernier. Alléluia. On prie le Seigneur. Alléluia. Seigneur, merci encore pour ta parole. Merci pour ces exemples qui nous sont donnés. Il y a ces animaux qui nous enseignent. Seigneur, et nous le voyons. Seigneur, il n'y a rien qui est laissé au hasard dans ta parole. On a vu avec ces caractéristiques de cet aigle, Seigneur mon Dieu, ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous. Seigneur, je te prie pour celui et celle qui, à un moment donné, a été interpellé au travers de ce partage, de cette prédication. Seigneur, il y a tellement de souffrances qui sont là, dans les cœurs, des choses que l'on vit en secret. Mais Seigneur, il est possible d'avoir un rajeunissement, que plusieurs, Seigneur mon Dieu, sortent de ce lieu pleinement encouragés, Seigneur, de savoir qu'il y a, Seigneur mon Dieu, une perspective, Seigneur mon Dieu, de renouveau avec toi. Seigneur, viens renouveler par ton Saint-Esprit, viens faire couler cette huile, Seigneur mon Dieu. Cette huile, elle cicatrise, c'est le baume de Galaad qui cicatrise les plaies. Seigneur mon Dieu, nous te remercions parce que ce matin, tu parles à nos cœurs encore, afin que nous puissions être, Seigneur, dans cette forme resplendissante, comme cet aigle royal qui vole, Seigneur, au-dessus, Seigneur. Trouve-nous, Seigneur mon Dieu, avec, ces choses que nous avons partagées ce matin, et à ton nom seul, nous voulons donner toute la gloire. Merci, ô notre Dieu. Amen.